RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, notre maître Yodu, le docteur Love, le porteur de flammes. Il y a tellement de casquettes celui-là.
C'est un multi-casquette. Hein.
Ça va?
Ça va impeccable et toi?
Ça va. Écoute, on est excité parce que le record du monde approche.
Oh
là,
oui.
À l'heure où on se parle, on est à 10 jours de l'échéance, mon petit pote. Donc là, il y a de la tension, il y a de l'excitation, on a envie d'y être. On remercie d'ailleurs tous ceux qui nous soutiennent. Je rappelle que toutes les infos autour de ce record du monde sont à retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram et Strava, et qu'un épisode spécial a été enregistré la semaine dernière. Donc écoutez-le, parce que comme ça, vous aurez toutes les infos, que vous soyez coureur ou spectateur. Hein. N'hésitez pas, il y a toutes les infos
dedans. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts.
Exactement. On a une championne à l'honneur dans RMC Running aujourd'hui et elle tombe à pic parce que justement on va pouvoir parler de tous ces sujets avec elle. C'est une spécialiste de l'ultra-fond, des épreuves de 24 heures notamment. Donc quand on vous dit c'est l'invité idoine, on va recevoir Stéphanie Jiquel, athlète de haut niveau, aventurière, conférencière, une femme inspirante. Elle est en pleine préparation donc de deux records du monde, le nôtre le 8 et 9 juin prochain, ce qui est assez court pour elle, et puis celui de la course non-stop pendant 24 heures. On va vous raconter ça, mais c'est prévu.
Mais tu lui as dit qu'elle devait courir que 10 minutes.
Oui, voilà. Pour le nôtre. Ah, c'est même pas un échauffement, je sais pas comment elle va faire. Je pense qu'elle va commencer à 8 heures du matin, et hop, on va la prendre en course comme ça directement sur la piste de Charletti. Elle va nous parler de sa préparation et vous donner ses précieux conseils. Justement, la séance sera adaptée à son profil. Comment gérer les temps faibles pendant une course, comment les coureurs qui seront en lice à 2h, 3h ou 4h du matin, si jamais il y a un petit coup de fatigue, comment ils peuvent le gérer et l'appréhender au mieux. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on n'est pas couché aujourd'hui. 3,
2, 1. Stéphanie Jiquel, je suis sportive de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme dans deux disciplines, le 100 km et l'ultra-fond.
HEC, de là vous allez entrer dans un cabinet d'avocats sur les Champs-Élysées.
Après quoi court-elle? Que vit-elle durant ses expériences intenses? Elle va nous apporter ses réponses lors d'un nouveau voyage.
Lorsque j'étais enfant, j'avais tout plein d'objectifs, tout plein de rêves, dont celui de découvrir le monde.
Initialement, la course à pied était un moyen pour moi de voyager. Plusieurs exploits à votre actif. Alors c'est vrai que je cours beaucoup, je cours des longues distances. J'ai déjà fait une semaine à 260 et j'ai déjà fait une semaine à 290.
Ouais, c'était impressionnant, hein. C'était ouf.
Je crois que pour la performance de très haut niveau, il faut une quête d'excellence.
J'étais renversée par une trottinette l'année dernière, fracture de la rotule, donc j'étais immobilisée pendant plusieurs semaines. Il m'a fallu aussi pas mal de temps de rééducation.
Il faut toujours se remettre en cause, ne jamais se dire qu'on est meilleur, qu'on est le meilleur.
Oh non mais Stéphanie, ne minimisez pas ce que vous avez fait.
Et elle est avec moi en studio, en direct, Stéphanie Jiquel. Salut Stéphanie.
Bonjour.
On est ravis de te retrouver, c'est la deuxième fois que tu viens dans RMC Running. La première fois c'était pour parler de ce défi fou que tu as accompli, ces 7 marathons en 7 jours sur des continents différents. Tu te souviens Yoann de ce périple complètement dingue?
Ah oui.
La gestion du décalage de fuseau horaire et tout, des conditions extrêmes.
Le premier n'était pas en Antarctique?
En Antarctique.
Premier était en Antarctique, effectivement la gestion du sommeil, la gestion de la nutrition, c'était un sacré défi.
Incroyable, et on est content de te retrouver. Avec le sourire, je le confirme à Yoann parce que tu es en face de moi. Tu es toujours une femme de défi et il y en a de nouveaux qui vont s'ouvrir à toi d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Comment ça va, tout simplement, physiquement, mentalement, tout dans ta vie?
Ça va bien, je suis avec vous, donc je suis contente.
Bon, bah tant mieux. Yoann, c'est des personnages inspirants qu'on aime recevoir dans RMC Running. Hein.
Ah ben, il y a toujours des histoires à raconter avec les athlètes comme ça, un peu hors du commun, ceux qui se lancent des défis un peu fous. Donc c'est toujours des histoires de fous, donc c'est sûr que c'est intéressant de les recevoir pour avoir un peu les nouveautés et vers quoi ils se challengent, parce que c'est toujours une fois qu'il y en a un qui est terminé, je crois pas que c'est terminé, hein, ça repart de plus belle, il faut faire mieux.
Toujours mis le défi en tête. Vous êtes vu physiquement à Brive il y a quelques mois, c'est ça? C'était pour les 24 heures championnat de France, c'est ça? Ou c'était quoi, Yoann?
Ouais, moi j'étais venu voir. C'était les championnats de France de 24 heures. Ouais. Et Stéphanie courait sur la boucle à Brive, là, de 1 km. Je la voyais tourner en rond. Franchement, ça m'avait impressionné. C'est la première fois que je voyais pour de vrai ces genres d'épreuves. Tu vois, t'en entends forcément parler, tu as vu des images. Mais là, je suis allé voir et moi, je suis arrivé. C'était encore, tu vois, ils étaient à 10 de mémoire. Ils étaient entre 8 et 10 heures d'effort. Donc, il y avait déjà de la souffrance, mais on n'était pas non plus à, dans les dernières heures. Ils s'apprêtaient à passer la nuit. Tu vois, je suis parti à 23 heures. Mais ça m'a impressionné, ouais. Ça m'a impressionné de voir dans quel état, enfin. Courir 24 heures, quoi, c'est impressionnant.
Et Stéphanie, pour notre record du monde, je me demande déjà comment je vais faire pour tenir éveillé 24 heures, mais toi, tu arrives à courir 24
heures. À courir 24 heures.
Alors, je sais pas comment tu fais, tu nous parleras de ta préparation, mais c'est vraiment un défi de l'extrême.
Hein. Ouais, c'est un sacré défi, c'est-à-dire qu'il y a l'entraînement physique, donc la capacité de pouvoir courir sur 24 heures, éviter les lésions musculaires, garder une foulée assez ample, suffisamment de fréquence, suffisamment de fraîcheur. Mais après, il y a aussi la gestion du ravitaillement et la gestion de la nuit. Et ça complexifie encore plus les choses parce que bien souvent, les abandons sur ce type d'épreuve sont liés à des troubles gastriques ou bien à l'impossibilité de rester éveillé sur 24 heures. Les derniers championnats d'Europe, quand j'ai amélioré le record de France, que j'ai couru 253,6 km en 24 heures, je n'avais pas dormi en plus la veille de la course. Donc, j'ai fait 48 heures sans dormir. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'allure baissait, non pas parce que mes jambes ne pouvaient plus avancer, mais parce que je commençais à m'endormir. Donc, en général, dans ces moments-là, je prends du café. On m'arrose aussi pas mal de... On me met pas mal d'eau sur le visage pour rester éveillée. Mais c'est compliqué, ouais.
Question toute simple, pourquoi tu cours autant?
Alors j'aime l'ultra-endurance, il faut savoir qu'à la base je suis une sportive aventurière, donc j'ai évolué dans l'univers du sport aventure, j'ai réalisé pas mal d'expéditions au Groenland, au Svalbard, je suis allée au pôle Nord, je suis allée aussi en Antarctique à plusieurs reprises, j'y ai fait aussi une très très longue expédition de plus de 2000 km qui a duré près de 3 mois. Donc j'ai beaucoup apprécié le sport au long cours et à force de faire du sport aventure, j'ai rencontré des athlètes de haut niveau, notamment dans le ski alpinisme, en voile, en trail, qui m'ont parlé de la compétition en ultra-endurance. Et là, je me suis dit, waouh, ça a l'air d'être un univers aussi extraordinaire que le sport aventure. J'ai eu envie de tester, j'ai participé aux championnats de France, je les ai remportés et puis ensuite j'ai commencé à évoluer dans l'univers de la compétition qui me plaît tout autant aujourd'hui que l'univers du sport aventure.
Le problème du sport aventure, c'est que quand vous vous rencontrez entre vous, bah vous êtes aussi timbrés les uns que les autres. Donc forcément, il n'y a rien qui vous impressionne les uns les autres. Quoi. Ouais, j'ai couru 24 heures, moi j'ai fait 3 mois en Antarctique.
Un marathon.
C'est ça. Mais tu vois, je trouve que, ok, on se dit courir 24 heures, championnat de France, record de France. Sur le papier, on comprend, on se dit, on pense aussi aux 100 km ou au marathon, mais c'est surtout ce chiffre de 250 km parcourus. C'est-à-dire que tu t'es parti, tu t'es pas arrêté, tu as parcouru 250 km, 253 km en 24 heures. En réfléchissant comme ça, Johan, c'est complètement fou quand même.
Bah ouais, ça fait une moyenne à combien ça?
5,40, je crois.
Ça fait 10,6 km par heure, ouais.
C'est ça.
Et ouais, t'imagines? À plus de 10 km heure, ouais, pendant 24 heures. Mais ce qui est dur, c'est les ravitaillements. C'est-à-dire que t'es obligé d'avoir une équipe autour de toi dédiée pour ta performance. Et tu le vois, ils sont plus stressés que l'athlète. Parce que c'est eux qui doivent gérer toute la partie, logistique, les ravitaillements, les cils et là. Et effectivement, c'est une part d'ombre, mais c'est ultra important dans ces efforts-là. Tu vois, des fois, on dit sur marathon, les ravitaillements, c'est la base, blablabla. Mais alors, imagine sur 24 heures.
Ah, c'est t'as pas le droit à l'erreur, c'est sûr.
Ah, t'as pas le droit à l'erreur. Et puis, alimente-toi pendant 24 heures à base de compote, de soupe, de purée, de machin. Tu verras qu'au bout d'un moment, c'est pas simple. Hein.
Ce qui est compliqué effectivement pour les ravitaillements aussi, c'est que quand on prend trop de sucre rapide de manière rapprochée, ça peut créer des troubles gastriques, des endotoxinoses, des perméabilités de l'intestin. Au final, on peut ne pas terminer une course parce que justement le sucre rapide a agressé le système digestif. De notre côté, si on prend des aliments plus complexes, donc ça peut être des fibres, ça peut être des féculents, lent, ça met longtemps à être absorbé.
Il faut le digérer.
Voilà, donc il y a un travail de l'estomac, un travail du système digestif qui fait que cette énergie, elle n'est pas mise dans les jambes, elle est mise plutôt au niveau du système digestif. Donc, ça peut aussi créer des ballonnements, des maux de ventre. Donc il faut trouver le bon équilibre. Après, j'ai remarqué qu'à force de pratique, à force d'entraînement, on est capable de faire le même effort avec moins d'apport glucidique. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que je crois que la clé, elle est quand même là. C'est que sur une épreuve d'ultra-distance, il ne faut pas trop s'alimenter parce que c'est en réalité, c'est complexe.
C'est une fausse bonne idée.
Ouais, complètement. Après, si on n'est pas suffisamment entraîné, on n'aura pas d'autre choix que d'avoir un important apport glucidique parce que le corps ne sait pas faire. Quand on est entraîné en tant que sportif de haut niveau, on peut faire le même effort avec un peu moins. Et ça, c'est déjà une des clés pour réussir ce type d'épreuve.
Et puis là, on parlait de levier dans l'assistance du champion ou de la championne. Il y a un moment très fort, d'ailleurs je vous invite à le voir si vous êtes passionné comme nous par l'histoire de Stéphanie. On te voit comme ça sur une épreuve, sur le document hors norme qui a été diffusé sur France 2, on voit ton compagnon et ce réflexe qu'il a pour travailler effectivement le ravitaillement, il te propose systématiquement ce que tu veux, mais l'effort mental aussi parce que tu as une relation très forte avec ta nièce Anna. Et il sent le moment où il faut l'appeler, elle te parle, elle te glisse quelques mots et on sent le boost comme ça tout de suite du moral, parce que le moral est tout aussi important, Stéphanie, en fait.
Ah oui, le mental, en fait, il est important durant la préparation parce qu'aller s'entraîner, c'est pas toujours évident. Il faut être dans la discipline. Parfois, il faut savoir aussi persévérer parce qu'on est face à certains obstacles, des accidents ou des blessures. Donc, il faut un mental. Mais aussi, durant la course, là, c'est plutôt une question de concentration. Quand on court 24 heures, alors sur un ultra-trail, du coup, ce reportage était centré sur l'ultra trail du Morbihan.
Ouais.
Donc là, on suit les balises. Enfin, il y a pas mal de choses qui occupent l'esprit. Quand on court 24 heures, on court sur piste et sur route. Là, pour le coup, on n'a pas forcément de particularités dans l'environnement qui peuvent occuper notre esprit. Et donc, ce qui est compliqué, c'est la concentration. Et on voit bien que quand on est plus concentré sur sa stratégie de course, sur son ravitaillement, sur ce qu'on doit faire, sur les concurrentes, en général, l'allure elle baisse aussi.
Ça, c'est intéressant parce que c'est toute la différence entre l'ultra-fond et l'ultra-trail. Ce sont deux choses complètement différentes.
Ah, ça n'a rien à voir. Alors déjà, la préparation n'a rien à voir. En général, l'ultra-trail, on est en nature, donc on fait face à du dénivelé, des sentiers, des rochers. Dans le Grand Raid du Morbihan, parfois, on déchausse pour traverser les pieds dans l'eau. On a des racines. Il faut s'adapter à l'environnement. En général, on fait des recos sur place parce que chaque ultra-trail est différent. Et puis, on adapte son allure en fonction de l'ultra-trail. Quand il y a des single track qui sont placés au début de la course, il faut démarrer rapidement de manière à pouvoir se positionner. La nuit, on sait que l'on court moins vite puisqu'on court avec une frontale, donc on a une visibilité qui est moindre. Par contre, en ultra fond, là pour le coup, l'objectif c'est d'avoir une allure qui est complètement lissée du début jusqu'à la fin. Alors après, on peut gérer de différentes manières. Il faut savoir que c'est une épreuve qui est une discipline qui est relativement récente, donc on a souvent dit qu'il fallait avoir une allure lissée du début jusqu'à la fin, un peu comme on le fait sur marathon aujourd'hui dans les pays occidentaux. Mais pourquoi pas commencer vite et finir plus lentement? C'est ce qu'a fait notamment Camille Héron lorsqu'elle a amélioré le record du monde il y a quelques temps. C'est une option. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de réponse parce qu'on est vraiment dans on apprend tous les jours dans cette discipline et c'est ça que j'adore.
C'est intéressant parce que nous, on a tendance à dire, mais on parle de distances beaucoup plus courtes, que la régularité est la clé. C'est-à-dire plus l'allure est régulière, plus justement vous allez chercher le meilleur de votre potentiel. Mais là, l'effort est tellement long, Johan, que cette vérité n'est pas forcément prouvée. C'est intéressant.
Oui, et puis tu sais pas trop la réaction du corps sur un effort comme ça. T'as beau partir sur ton allure, tu sais pas comment tu vas être au bout de 15-16 heures d'effort. Donc effectivement, c'est pas évident. Ce qui va compter, c'est vraiment la gestion entre tes temps forts et tes temps faibles, les moments où t'as pas perdu trop de temps quand justement t'étais un peu en down. Et les moments que tu as pu passer comme il faut avec les moments d'euphorie, on a tous connu ça, des moments où ça tourne tout seul, où ça déroule et où on va plus vite que ce qui était prévu. Donc c'est cette moyenne-là qui est importante. Ouais.
C'est quoi, Stéphanie, le gap sur ton record des 24 heures, par exemple, entre ton kilomètre le plus rapide et le plus lent?
Alors, quand j'ai amélioré le record de France lors des championnats d'Europe à Vérone, j'ai couru à 11,2 km/h pendant 14 heures.
Ouais.
Ensuite, l'allure a commencé complètement régulier. Donc j'étais à 5,23 au kilo et je m'étais entraînée à cette allure. Donc beaucoup de sorties de 4 heures, de 6 heures à cette allure. En fait, je connais vraiment bien les allures 11, 11,2, 11,5, 12. C'est vraiment des allures que je connais bien et je vois, enfin, mon corps reconnaît la différence à 0,2 près.
C'est fou, ça.
Voilà. Et à partir de 14 heures de course, j'ai commencé à m'endormir. Donc là, l'allure a baissé. J'ai pris la tête de la course au bout de 16 heures et je l'ai gardée jusqu'à la 23e heure de course. Et au bout de 16 heures, je peux vous assurer que c'est là que tout commence.
Ah ouais.
Et on se dit, waouh, là, maintenant, je suis devant. Il faut que je prenne mes responsabilités. Il reste combien? 8 heures. OK.
C'est ça. On n'est pas au mur du 30e, on se dit il reste 12 km. Non, il reste 8 heures d'effort. Avant d'entrer dans le spécifique, l'entraînement pur et dur, Stéphanie, question que je voulais absolument te poser, qu'est-ce qui est le plus plaisant, le plus gratifiant? C'est un record de France? C'est une médaille, parce que tu as eu des médailles au championnat du monde? Ou c'est une arrivée d'une expédition longue? Est-ce que les émotions sont les mêmes? Ou est-ce qu'il y a une émotion qui est plus forte que les autres?
Ce qui me procure de l'émotion, c'est surtout le chemin, c'est-à-dire le fait d'avoir parfois dû faire preuve de résilience, de persévérance, d'avoir continué même si ça semblait complètement impossible, d'avoir soulevé des montagnes parfois, d'avoir convaincu d'autres personnes de me rejoindre dans une aventure et d'avoir continué malgré tout, parce que finalement, faire preuve de discipline au quotidien, c'est vrai que parfois, ça peut être pénible, on peut ressentir une forme d'impatience, on peut ressentir parfois de l'isolement ou parfois une envie que les choses aillent plus vite. Mais je crois que la différence, elle se fait surtout quand on continue alors que tout va mal, vraiment dans le temps long. Et quand vous continuez malgré tout, malgré ces moments parfois de souffrance et qu'un jour vous atteignez l'objectif, c'est juste énorme.
Ouais.
C'est pas une question de médaille, c'est pas une question de record, c'est pas une question d'arrivée d'une expédition, c'est plus grand parce que parfois vous pouvez améliorer un record. C'est ce que j'ai fait notamment à Vérone, c'est ce que j'ai fait aussi sur le Grand Raid du Morbihan dont vous parliez tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait sur les 100 km de Millau aussi, j'ai amélioré le record de l'épreuve. Mais ce que j'ai ressenti à la fin de ces épreuves, c'est que je pouvais aller encore plus loin, que j'avais énormément de marge, qu'il y avait des choses à corriger. Et ça tout de suite, j'ai eu envie de repartir au travail pour aller plus loin. Et donc, j'ai rien ressenti de spécial. Et puis parfois, parce que vous traversez un chemin qui est vraiment ponctué d'obstacles, semé d'obstacles, parce que c'est compliqué, vous ressentez quelque chose de fort et pour autant il n'y a pas forcément de record à la clé, donc les autres ne voient pas tout ce chemin-là et ne ressentent pas votre plénitude.
C'est très personnel en fait, ça n'a aucun lien avec le prestige de l'effort réalisé.
Non, ça n'a rien à voir avec...
C'est en fonction de tout ce que tu as vécu arriver là.
Oui, plutôt, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Johan, c'est quoi la distance la plus longue que tu aies courue, toi, qui est marathonien international?
42,195. Ah, jamais plus. M'arrête, je passe la ligne.
T'es jamais allé
5
au-delà de ça.
Pour aller jusqu'au ravitaillement en plus, et ça s'arrête là.
Ouais, il fait même pas de récup, lui, après
peut-être
marathon.
Peut-être que tu l'as fait à l'entraînement quand tu as fait des SP marathon,
non.
Peut-être.
Oh, non.
Non, je m'étais arrêté pareil au marathon.
À 42,
ouais,
d'accord.
42, ouais. Non, j'ai jamais dépassé 42 km.
C'est rigolo, hein. T'as vu ça, Stéphane? Ça te fait rire, toi, Stéphane? C'est sûr.
Cela dit, il court très, très vite et c'est un autre sport.
C'est sûr. C'est un autre sport.
Vraiment, c'est deux choses qui n'ont rien à voir et qui sont tout aussi complexes l'une que l'autre.
On parlait de record. Donc, il y a une Française qui avait battu le record du monde, qui a été battue de nouveau par une Japonaise. Je vais vous donner son nom. C'est Mio Nakata, qui a parcouru une distance en 24 heures de 270 km et 363 mètres. Elle a devancé le record de Camille Héron de 246 mètres.
Ah là, la haine.
Elle a pris le record du monde pour 246 mètres. Et ceux qui veulent avoir un ordre d'idée, là, on est sur une allure de 5,20 au kilomètre. Voilà, c'est l'allure moyenne sur les 24 heures réalisées par la Japonaise. Et toi, Stéphanie, c'est ton but cette année? Aller casser cette barrière, aller chercher ce record du monde.
Oui, j'ai pour objectif d'améliorer le record du monde. Alors, j'ai surtout pour objectif d'améliorer ma meilleure performance, ce que j'aime en fait quand je fais des choses, que ce soit dans le sport de haut niveau, dans le sport exploration ou dans tous les domaines dans lesquels j'interviens, c'est vraiment d'aller au bout, d'explorer, de donner le meilleur de moi-même, donc d'être la meilleure version de moi-même. Et là, il se trouve qu'en ultra-fond, j'ai ressenti à l'issue des championnats d'Europe de Vérone, que je n'avais pas particulièrement préparé parce que j'avais les championnats du monde de 100 km 3 semaines auparavant. Mmh. Et donc, on s'était focalisé sur les championnats du monde de 100 km. Et là, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Je me suis dit, mais en fait, tu peux tenter le record du monde, en fait. Et voilà. J'ai eu un peu comme une révélation à l'issue de ces championnats. Alors qu'avant, je pensais au record d'Europe, mais très sincèrement, je ne pensais absolument pas au record de Camille. Et aujourd'hui, voilà, donc c'est Mio Nakata qui a ce record du monde. Et c'est vrai que voilà, j'y pense, je le travaille. Et j'ai donc toute une planification qui a pour objectif d'aller améliorer ma meilleure performance. Et a priori, ça devrait nous amener là. Après, il faut savoir que ce n'est pas ce que je recherche. C'est-à-dire que si je n'atteins pas l'objectif, mais oui. que je ressens que je suis allée au meilleur de là où je peux aller, je serais extrêmement contente. Si par contre, je améliore ce record, mais que je sens que j'ai encore de la marge, je voudrais y revenir.
Voilà, donc il n'y a pas de finalité à décrocher ce record du monde.
Non,
toi, tu vas aller au bout de toi-même et à ton potentiel.
C'est ça.
Le lieu, justement, de la performance, tu l'as déjà déterminé ?
Alors, la première tentative, ce sera en Arizona, au mois de décembre. Ouais. Et puis après,
Quel type de parcours ? Tout plat ?
Là, c'est une boucle et c'est tout plat. Oui, oui.
Boucle de combien de kilomètres, tu sais, non ?
Là, on est sur 400 mètres, on est sur une piste.
Ah oui.
Et nous, on se plaint. Ouais, nous, on se... Bah, en fait, tu vas faire notre record du monde, mais toute seule. C'est ça qui est fou.
Vous donc... changez de sens ?
Oui, on change de sens tous les 4 heures.
Ah, tout de même, parce que sinon, les genoux trinquent trop, quoi. Les articulations.
Oui, 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 tout à fait. Et c'est vrai que dans l'entraînement, il faut trouver un circuit qui ressemble le plus donc, au circuit de la course. Donc là, en l'occurrence, c'est assez facile pour la piste. Mais en général, j'essaye toujours de trouver un circuit ou de me le construire. J'ai notamment construit un petit circuit à l'INSEP qui ressemblait, je crois, au parcours de Vérone lors des championnats d'Europe. Ouais. Donc, je m'étais entraînée beaucoup à l'INSEP. Pour Brive, je m'étais entraînée dans un parc où le revêtement était un peu semblable, le dénivelé un peu semblable aussi. Et puis, je fais un circuit qui ressemble vraiment au jour de la course parce qu'effectivement, ça peut impacter les genoux, les muscles. Enfin, voilà, si on tourne pendant 6 heures dans un sens, c'est pas pareil que tourner pendant 6 heures dans un autre sens.
Pourquoi l'Arizona, alors, si c'est une piste d'athlétisme ?
Alors, parce que c'est une très grande course et c'est là que Camille Héron avait amélioré le record du monde en 2019. C'est une course sur invitation, donc il y a un très très beau plateau du très haut niveau et c'est important aussi pour des courses de 24 heures.
Un peu d'émulation, quoi.
Ah oui, il en faut, ouais. Ouais. Et j'ai vécu à Vérone, j'ai vécu une course absolument magnifique parce que il y avait des concurrentes qui étaient très très fortes et pendant 24 heures, j'ai pris du plaisir en fait à suivre les unes, à suivre les autres, à suivre un peu les stratégies que l'on me transmettait. Hein. On me disait ce que je devais faire et je le faisais. Et c'est une course qui reste absolument mémorable dans ma tête aussi pour ces moments-là. Donc j'ai vraiment envie de revivre ce type de moment et c'est pour ça que j'ai choisi l'Arizona. C'est une première tentative et il y en aura peut-être probablement d'autres derrière. Je pense à la Pologne aussi l'année prochaine et probablement aussi au championnat du monde.
Ok. Johan, on en revient toujours au même critère, c'est cette émulation collective. Peu importe la distance, ça te pousse toujours à donner le meilleur de toi-même. C'est toujours essentiel dans une quête de performance.
Bah ouais, c'est ça qui est dingue. C'est que même sur des 24 heures, même sur des distances comme ça, quand t'es plus ou moins à la bagarre, que tu sens que derrière il y a quelqu'un devant, qu'il faut aller le chercher, ou que t'es première mais que t'es chassée. Bah effectivement, c'est quelque chose qui te permet de te pousser et c'est vrai que ça on en parle souvent, mais la densité d'une course c'est ultra important. Pourquoi le marathon de Valence est autant réputé? C'est parce que la densité de coureurs à tous les niveaux elle est monstrueuse et effectivement c'est des choses qui t'aident, qui te poussent dans les bons comme dans les mauvais moments et c'est ce qui va te permettre de te transcender clairement. Donc effectivement, aller chercher la victoire, aller chercher la première, c'est des trucs qui te poussent tout au long de ton épreuve, ouais.
Alors, comment s'entraîne-t-on pour aller réaliser une telle performance ? Déjà, avant d'entrer dans le détail des séances, j'aimerais que tu nous parles de planification globale. Ton année est tournée vers cet objectif. En termes de planification, comment t'as organisé les choses, Stéphanie, alors ?
Alors, j'aime bien travailler ce que j'appelle la vitesse. la vitesse entre guillemets, hein, parce que...
Sur 100 km quoi, la vitesse.
je suis préparée notamment par Alain Ellie, qui est préparateur physique donc au Stade Français, dont je suis licenciée. Bon, il n'aime pas quand je parle de termes de vitesse, puisqu'il il entraîne aussi des sprinteurs. Donc, on est vraiment dans un autre monde.
Oui, oui, mais les sprinteurs sur 24 heures, et pour moi, les marioles aussi.
Donc, je travaille plutôt les distances courtes, parce que je pense que c'est bien de garder un peu de dynamisme. Maintenant, j'avoue que je suis passionnée par énormément de choses et le fait de travailler les distances courtes pour ensuite aller vers le long m'ont donné envie un jour d'explorer aussi ces fameuses distances courtes, donc le marathon et le 100 km, et ça je l'ai vraiment dans un coin de la tête.
Donc ça c'est les distances courtes.
Ouais, pour moi, c'est des distances courtes. Ouais. Ouais.
Le marathon est 5 km, je t'ai dit. C'est de la vitesse.
Imagine un semi. Un semi, pour elle, c'est un 3000
km. C'est du sprint.
C'est ça. Alors, c'est vrai que c'est bien de conserver un peu de dynamisme. Après, c'est toujours des périodes très courtes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps vraiment de rentrer dans la discipline, de comprendre comment fonctionne le marathon, parce qu'il faut déjà passer à autre chose. Après, j'essaye d'avoir une distance plutôt aux alentours du 100 miles. Et ensuite, je remonte sur 24. Alors, parfois, on fait deux courses de 24 heures sur une année. Ça m'a réussi en 2022. Bon, c'est un contexte un peu particulier parce que je revenais d'une fracture de la rotule. Ouais. J'avais été renversée par une trottinette. Ouais. Donc, j'avais fait les championnats de France et ensuite, j'avais fait les championnats d'Europe, les deux dans la même année. Ça m'a réussi. Après, c'est vrai que dans une année, il y a tellement de choses qui me plaisent que j'aime bien passer du temps aussi sur des distances plus courtes. Après, il y a tout ce qui est renforcement musculaire, gainage, préparation physique, la tension portée à l'alimentation. Enfin, tout ça fait beaucoup et je pense qu'on a la même problématique que dans n'importe quelle discipline, c'est qu'on ne peut pas tout travailler en même temps parce qu'on n'a que 24 heures, parce qu'une semaine de programmation, c'est 7 jours. Si vous voulez que les séances de VMA elles soient pertinentes, il faut qu'elles soient suffisamment rapprochées. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre en même temps des séances de muscu. Enfin, vous pouvez les placer
C'est dur,
à certains... Enfin, c'est très, très compliqué.
C'est la problématique des sportifs de haut niveau.
C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut un temps long avant d'atteindre des objectifs. Il faut un temps très, 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 très long. Si on se concentre uniquement sur le volume de course à pied, le risque, c'est de se blesser. C'est de progresser à court terme, mais finalement, à un moment donné, de ne plus progresser. On ne sait pas pourquoi, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé le pied. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment fait de renforcement. C'est
le
parce qu'il manque des choses, en fait. Donc, il faut trouver un équilibre. L'équilibre, il est complexe. Pour l'instant, je parviens à peu près à gérer de cette manière-là, avec de la distance courte plutôt en début d'année, puis des distances plus longues en fin d'année. Puis après, il y a toutes les péripéties, les accidents, les obstacles qui font que parfois, ça vient complètement chambouler votre programmation. Et c'est ce qui s'est passé notamment en 2021-2022 pour moi.
Tu fais des week-ends chocs ? Tu fais de l'effort de 24 heures. Est-ce que tu fais une fois ou deux dans une préparation, une sortie de 12 heures, 14 heures, des sorties très longues ?
Alors, 12 heures et 14 heures, je ne l'ai jamais fait. Par contre, je fais des week-end chocs, donc 6 heures par exemple un jour et puis 6 heures le lendemain. Ça, ce sont des choses que j'ai déjà fait. Après, c'est parfois pertinent, parfois ça l'est moins. Si on a déjà placé un 24 heures dans la saison, on n'a pas forcément besoin de ça. Il ne faut pas non plus arriver trop fatigué. Donc ça dépend en fait des prépas, ça dépend du moment de la prépa. Quand j'ai préparé par exemple Vérone, on s'est concentré sur les championnats du monde de 100 km. Donc j'avais un volume qui était relativement faible d'entraînement hebdomadaire, pas de week-end choc, pas de sortie de 6 heures. Et pour autant, derrière, trois semaines après les championnats du monde de 100 km, j'améliore le record de France d'ultra. Je pense en fait que je l'avais dans les jambes déjà depuis quelques années, mais il y a eu la Covid, il y a eu la fracture de la rotule, il y a eu toutes ces péripéties qui ont fait que finalement, j'ai pu aller faire une performance que j'avais en moi. Je n'ai pu la faire que plusieurs années après l'avoir probablement déjà travaillée en fait.
Mais ça, c'est intéressant ce que dit Stéphanie, parce que ça donne de l'espoir aussi aux coureurs amateurs et réguliers, Johan, c'est que quand on est capable d'aller chercher une performance, si elle ne vient pas dans l'instant, le travail qui a été effectué auparavant servira toujours pour la suite.
Le travail finit toujours par payer. Après, il faut toujours savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas payé à l'instant T. Est-ce que j'en ai trop fait ? Est-ce que j'en ai pas assez fait ? Quelles ont été les erreurs ? Mais c'est vrai qu'après, si tu modifies un petit peu, si tu changes certains trucs et si tu pars sur un nouvel objectif, bien évidemment que le cumul, les kilomètres, tout ce que tu as fait dans ta préparation, c'est pas perdu, c'est quelque chose qui reste. Le corps, il a, on le dit souvent, il a une mémoire. Mmh. Et effectivement, derrière, après, t'as juste à modifier 2-3 trucs pour pouvoir de nouveau performer. Ouais.
Question très pertinente de notre excellent producteur Geoffrey Charpie. Parlons de matériel. Est-ce que tu cours en chaussures carbone?
Alors, sur les distances courtes, je cours avec des chaussures carbone depuis 2022, donc après 2022, même 2023. Donc après
donc
mon
sur 24
accident.
Heures en carbone.
Non, sur 24 heures, je ne l'ai jamais fait. Et là, je compte
d'accord.
le faire.
Ok.
Là, je compte le faire parce que voilà, je me suis rendu compte que ça pouvait être pertinent sur 24 heures après avoir pensé pendant plusieurs mois, voire années, que ce ne serait pas pertinent sur l'ultra distance. Aujourd'hui, je pense que ça peut apporter. Donc j'ai
pourquoi
passé
t'as changé
un cap.
D'avis alors, Stéphanie ?
J'ai changé d'avis parce que j'ai fait l'expérience du carbone, parce que je veux partir plus vite sur ces épreuves d'ultra distance, parce que, enfin voilà, tout plein de raisons. C'est l'expérience qui m'a fait changer d'avis. Maintenant, je suis assez d'accord avec une remarque qui a été faite par Johan lors d'un précédent podcast que j'ai eu l'occasion d'écouter, quand tu disais que à force d'utiliser du carbone, on ressent moins ce travail du pied, on perd en qualité de pied. Alors, je n'ai probablement pas ta qualité de pied parce que j'ai commencé l'athlétisme bien plus tard, mais je ressens quand même, j'ai cette intuition qu'on perd quelque chose. Et c'est vrai que j'ai passé plusieurs mois, plusieurs années avant d'aller sur les ultra-distances avec mon entraîneur à travailler le pied. Donc, on faisait beaucoup moins de volume. Hein. On travaillait surtout le pied, les gammes, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais essayer d'insérer un peu plus de volume pour préparer cette ultra. Je porte aussi des chaussures carbone et je ressens parfois cette perte de qualité de pied.
Ah, c'est dingue. Hein.
Tu choisis le carbone pour le côté protecteur, il y a moins de dégradation musculaire, ou pour le côté performance, c'est plus facile avec une chaussure carbone d'aller chercher une allure plus rapide?
Alors, je suis mieux avec les chaussures carbone. Je me sens bien. Elle tient bien le pied. Je sens qu'il y a effectivement moins de fatigue musculaire. Il faut savoir que dans notre discipline, le risque, ce sont les lésions musculaires qui peuvent être extrêmement importantes. Avec une augmentation de ce que l'on appelle les CPK, donc des marqueurs que l'on peut surveiller à l'issue d'une course d'ultra. Donc quand ces marqueurs augmentent beaucoup, on peut avoir des conséquences relativement graves. Mais l'objectif de la préparation, c'est justement de limiter ces conséquences, voire de les éviter complètement. C'est pour ça qu'on s'entraîne. On s'entraîne pour la performance, mais aussi pour préserver sa santé. C'est pour ça qu'on accepte ces entraînements qui sont fastidieux au quotidien. C'est aussi dans un objectif de mieux se préserver. Donc, je ressens qu'avec les carbones, on se protège un peu plus. C'est vrai qu'en ayant testé les carbones, d'abord sur des distances courtes, ensuite sur la piste, ensuite progressivement sur le 100 km. Il faut savoir que tous mes 100 km, je les ai courus avec des chaussures tout à fait classiques, sauf un 100 km que j'ai fait avec des carbones. Donc, j'ai vu la différence. Puis, j'ai commencé à faire des sorties longues avec, et je me suis rendu compte que même à 12 km/h, 13 km/h, on était plutôt bien. Donc aujourd'hui, j'ai changé d'avis sur ce sujet.
Toujours ce débat autour de la chaussure carbone, Johan, mais je pense que vous avez la même approche, dans le sens où Stéphanie, j'imagine qu'à l'entraînement, tu utilises la carbone le moins possible pour garder le pied. Ou alors, non, tu l'utilises quand même sur pas mal de séances?
Je l'utilise sur certaines séances, notamment des séances à allure spé pour préparer l'ultra-distance, parce qu'on est dans une allure qui est quand même relativement faible, donc un départ à 11,5 ou à 12 km/h. Donc, il faut s'habituer quand même à courir avec des carbones sur de telles allures. Hein. Donc, si je faisais que des entraînements de VMA longue ou de EMA avec les carbones, je pourrais éventuellement être choqué ensuite dans la pratique de l'ultra. Donc, c'est quand même important aussi de le tester parfois à l'entraînement. Donc, c'est un mixte entre des chaussures plus traditionnelles et puis les carbones. Voilà.
Le problème, c'est la durée de vie d'une chaussure carbone. C'est que Stéphanie, après 24 heures, doit les jeter.
Au bout de 24 heures, elle peut passer à la poubelle. Ouais.
Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, c'est la discipline qui veut ça. En termes de volume kilométrique, là, en prépa spécifique, tu oscilles entre quel kilométrage?
Alors là aussi, je suis en progression. En fait, il faut savoir que dans le sport de haut niveau, j'ai l'impression d'être quand même au début de mon cheminement par rapport au sport aventure où j'ai pas mal exploré, j'ai pas mal crapahuté. Dans le sport de haut niveau, je suis au début de mon aventure dans le sens où j'ai essayé jusqu'à présent d'explorer tout un tas d'aspects. Donc la nutrition, je travaille avec un nutritionniste depuis plus de 10 ans, il s'appelle Didier Chaud. Mmh. On a commencé à travailler ensemble quand j'évoluais dans l'univers de l'exploration et aujourd'hui il continue à m'accompagner puisqu'il accompagne des sportifs de haut niveau en natation, en foot et dans d'autres disciplines. J'ai exploré aussi le travail du pied, donc on évoquait tout à l'heure la préparation physique spécifique. Il faut savoir que pour moi c'était assez nouveau hein, puisque je venais du sport aventure. J'ai découvert l'athlétisme assez tardivement. J'aimais beaucoup courir quand j'étais jeune, mais on ne m'a jamais dit ouais. Tiens, tu pourrais t'inscrire en club, tu as peut-être ce quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je n'avais pas fait les rencontres qui m'auraient permis ensuite d'aller vers cet univers. Donc j'ai passé du temps à découvrir la PPS, j'ai passé aussi du temps en salle pour justement prévenir les blessures, hein, en lien avec l'âge aussi, il faut préserver son corps. Donc j'ai passé beaucoup de temps à explorer tout plein de domaines et à travailler aussi beaucoup avec les chercheurs sur tout ce qui est acclimatation au froid, à la chaleur. Alors là, ça vient de mon parcours dans le sport ouais. aventure, j'aime beaucoup ces sujets d'acclimatation. Mmh. Et finalement, j'ai passé moins de temps à faire du volume. Alors j'ai fait des semaines, comme on l'a vu dans le reportage, à 260, une semaine à 290. Mais elles ont toujours été, on va dire, un peu ponctuelles. Et sinon, on était plutôt aux alentours des 80, 120 avec mon ah ouais. précédent entraîneur, ah oui. donc très peu. Et aujourd'hui, beaucoup, ouais. J'ai pris conscience donc des rencontres. Avec les rencontres que j'ai faites et puis aussi en évoluant en équipe de France, notamment en équipe de France de 100 km et puis en écoutant aussi vos émissions, j'ai pris conscience qu'il y a aussi une école du volume, donc avec beaucoup, beaucoup de volume, de sorties longues à allure spécifique. Il faut savoir que certaines sorties pour préparer des 100 km sont des sorties de 65 km, ce que moi, je n'avais jamais fait ça auparavant. Ouais. Je ne l'ai encore jamais fait. Et là, avec mon nouvel entraîneur, donc Jérémy Cabadé, on va aller vers ça. Et donc, c'est pour moi une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Essayer de cumuler plusieurs semaines à plus de 200 consécutives. Ça, c'est la prochaine aventure que je
sans
vais
se blesser,
vivre.
C'est le défi.
C'est ça le défi.
Sans se blesser,
voilà.
Ouais.
Ouais. Parce que l'enjeu est là. C'est toujours la même chose avec le volume, Johan.
C'est ah,
que
c'est ça.
Le volume, c'est top, mais le risque est là, l'écueil est là. Et dès
le risque de blessure, le risque de surentraînement, eh oui. Plus tu en ajoutes et plus tu peux basculer. Tu sais, on est souvent sur un fil et quand on tombe dans le pic, on tombe. Bah, l'image, elle est là. Et effectivement, le volume, c'est très bien. C'est ce qui va permettre de passer des caps par moment, des fois. Mais c'est le danger. Il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger.
Après,
il
je pense que Stéphanie, tu as assez d'expérience pour savoir c'est t'écouter ça. Et sentir le degré de fatigue de ton corps et de tes jambes. Quoi.
Oui, je ouais. suis très très à l'écoute de mon corps. Là, c'est vrai que tous les travaux auxquels j'ai participé, notamment avec mon nutritionniste, m'ont beaucoup aidée. En fait, il faut savoir que j'ai eu une vie en entreprise pendant près de 10 ans qui était assez extrême.
C'était
aussi.
C'était avocate, on le rappelle.
Oui, et donc c'était un univers qui était particulier parce qu'on travaillait souvent jusqu'à 2-3 heures du matin et c'était voilà, c'était imposé, donc c'était pas forcément un choix. On nous demandait de travailler autant, et si on partait à 20 heures, on prenait notre après-midi. Donc c'était une forme on va dire de d'école du travail et de la persévérance.
Ouais. Enfin, ça a dû te servir dans ton expérience d'aventurière et de sportive.
Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Oh, ouais, totalement, ça m'a énormément aidé, et j'ai pris conscience du coup ensuite en ayant des activités qui sont plutôt centrées autour du corps, que quand on prend soin de son corps, quand on l'alimente bien, quand on récupère, c'est tout ce qu'on appelle l'entraînement invisible, quand on dort, ben au final, on est beaucoup mieux dans toutes ces activités, y compris des activités d'écriture, des activités de bureau, des activités qui sont considérées par le grand public comme étant complètement sédentaires. Ça m'a énormément apporté, et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'écoute énormément mon corps, je ressens beaucoup de choses, et c'est vrai que le sportif de haut niveau, par définition, sollicite énormément son corps. Il y a beaucoup de décompensations, beaucoup de contraintes un stress oxydatif qui peut être important, des inflammations. Et l'alimentation, la densité micronutritionnelle de son assiette va venir justement nous aider pour lutter contre ces conséquences négatives, on va dire, du sport de haut niveau. Mais en même temps, c'est ça qui fait la beauté en fait de cette pratique, parce qu'on est toujours sur un fil. Il faut aller suffisamment loin pour créer la performance, mais pas trop loin pour ne pas se blesser, pour ne pas être finalement plus mal que si l'on ne faisait aucune activité. Je trouve ça extrêmement beau. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des parallèles avec ce que j'ai pu vivre dans le sport aventure. Une recherche de sublime, une recherche de perfection. Je trouve que c'est absolument magnifique, et pouvoir s'écouter, c'est une chance en fait d'avoir conscience de son corps et de savoir ce qui lui fait du bien, ce qui fait qu'on va trop loin. Enfin voilà, d'avoir cette sensation, je trouve que c'est extrêmement agréable.
Je précise que tu avais terminé ton périple en Antarctique à 39 kilos. Tu pesais 39 kilos à l'arrivée.
Oui, avec beaucoup
de... Pour un départ à combien ?
Alors au départ, j'étais à plus que mon poids de forme, puisque quand on part sur une expédition polaire, l'objectif c'est d'être un tout petit peu plus gras que lorsque l'on pratique le sport au niveau. Donc je devais être à 45-46.
Ah oui, quand même.
Mon poids de forme est à 43, mais c'est vrai que 39 c'était vraiment très faible. Ah ouais. Et j'avais beaucoup de carences en oligo-éléments notamment, et à la fin de cette expédition... J'avais beaucoup de fluctuations d'humeur, j'avais du mal à me concentrer, ouais, notamment sur mes travaux d'écriture. Mmh. Et c'était très différent de la situation que je connaissais avant. Et on a fait pas mal de bilans avec mon nutritionniste, et on s'est rendu compte que j'étais tellement carencée que c'est ça qui avait un impact sur le mental.
Et juste, on comprend désormais l'importance que tu accordes à la nutrition, la façon de t'alimenter tout au long de ton entraînement, d'ailleurs pas seulement juste avant une épreuve. Il n'y a jamais d'écart de plaisir personnel ?
Alors si, il y en a beaucoup. En fait, c'est tout ça qui est très intéressant, justement, c'est savoir jongler entre les écarts, les moments où il faut pousser les curseurs et les autres moments où on peut se faire du bien à sa tête.
Ouais.
C'est l'équilibre. Je pense que la vie, elle est dans l'équilibre.
Voilà.
Donc l'écart, si vous mangez des viennoiseries pendant quelques semaines et qu'on est loin de l'échéance, cela ne va pas vous tuer. Maintenant, si vous savez qu'à un moment donné, vous avez des fluctuations d'humeur, peut-être ça peut venir d'une trop grande importance du sucre, ça peut venir d'une carence dans un oligo-élément, le zinc, le sélénium, le magnésium. Enfin, si vous avez cette perception et que vous pouvez le corriger, c'est ça qui est important. Après, il ne s'agit pas d'être dans la discipline drastique qui vous rend malheureux tous les jours, parce que là, ça n'a plus aucun sens.
Là aussi, c'est une histoire de balance entre le plaisir et l'envie de performance.
Ah, bah, complètement.
Ah ouais.
Complètement. Mais parfois, quand on est vraiment proche d'une performance, alors quand on en est loin, on peut être dans cette balance, et notamment dans la gestion de ses activités au quotidien, on peut être dans la conciliation, et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai plein de projets, parce que dans chacun de ces projets, je suis finalement assez loin d'atteindre encore la plus haute performance que je pense pouvoir atteindre. Quand on est proche de la plus haute performance, et c'est ce que j'ai connu quand j'ai parcouru l'Antarctique sur plus de 2000 km, à ce moment-là, c'était un projet qui était tellement ambitieux. Là, pour le coup, il n'y a plus aucune marge. Donc là, vous devez laisser tout de côté et être dans une discipline extrême pour atteindre l'objectif. Mais c'est sur des temps qui sont finalement assez courts.
Juste avant de passer à la séance, une question aussi que je voulais te poser. Est-ce que tu trouves que ces épreuves d'ultra-endurance, d'ultra-fond manquent de reconnaissance ? Toi qui es à fond dedans, toi qui es, c'est ta vie, est-ce que tu penses qu'on réalise pas assez les performances que vous faites ?
Bah, je crois que l'ultra-endurance, c'est le propre de l'homme, c'est-à-dire qu'on est avant tout des êtres endurants. Quand vous êtes face à un ours polaire, il court à 50 km/h.
Ouais.
Donc même le meilleur sprinter ne peut rien faire. Je crois que l'homme est un être endurant au sens vraiment général du terme, parce qu'on est persévérant, parce qu'on est dans la résilience, parce que on continue toujours et encore. Et on voit bien que si on a pu créer tout ce que l'on a créé, tout ce qui nous entoure, c'est bien parce qu'à un moment donné, on a fait preuve de résilience, on s'est entouré, on a travaillé ensemble. Donc c'est le propre de l'homme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les disciplines de l'ultra-fond, il y a quand même un essor, hein, notamment grâce à l'ultra-trail, grâce à la montagne, grâce à ces courses sur les sentiers.
Ah oui.
On en parle de plus en plus. Probablement, peut-être un jour, on sera au jeu. Il faut savoir que le marathon, il y a des dizaines d'années, on n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. On considérait que les marathoniens étaient fous.
Ouais.
On considérait que courir 42 kilomètres,
c'était des extraterrestres.
Donc, moi, je suis sûre qu'un jour, l'ultra-fond sera notre marathon d'aujourd'hui, mais je ne le verrai pas. Peut-être pas.
Mais c'est possible.
Probablement pas.
Mais d'ailleurs, on voit peu à peu la mode du marathon passer à l'ultra trail. Et on le ressent en tant que justement spécialiste entre guillemets et observateur chaque semaine du monde de la course à pied. C'est vrai qu'on constate un peu cette évolution jusqu'aux disciplines de l'ultra trail. Restez avec nous, Stéphanie et Yodu. On passe tout de suite à la séance.
RMC, la séance.
Et ça aussi, c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas besoin de pratiquer l'ultra-fond pour ressentir cette sensation, le coup de mou, le temps faible pendant une épreuve, ce moment où le corps souffre et vous demande d'abandonner. Comment gère-t-on ces moments? Déjà, premier conseil qu'on peut donner, et ça, de toute façon, si vous avez de l'expérience en course à pied, vous le savez, l'acceptation de la souffrance et de la douleur, c'est essentiel. Hein, ça peut pas marcher autrement, Johan. Hein, ça, il faut accepter de souffrir, quoi qu'il arrive. Hein.
Quand tu signes et que tu prends le dossard, tu sais que tu vas pas passer un samedi dans ton canapé. Hein.
Voilà. Là, c'est ça.
Tu sais dans quelle galère tu t'es mise. Hein. Donc, t'as pas trop le choix. Effectivement, c'est un sport difficile, la course à pied. Voilà, on parle souvent de dépassement de soi. On peut parler de souffrance. Hein. Voilà, le mot souffrance, il est quand même un peu lourd, mais effectivement, c'est des moments qui sont pas évidents, mais que ça soit sur 5, 10, semi, marathon, ultra, il y a toujours un moment donné où, tu pousses le corps dans ses retranchements, et effectivement, le réflexe, c'est qu'il t'envoie des signaux en te disant, là, ça va trop vite, j'explose, fais ce que tu veux, mais moi, je vais pas plus loin, tu vois. Et là, effectivement, c'est à toi d'essayer de trouver des leviers. De ne pas paniquer, la première chose c'est de ne pas paniquer, hein. Si ça t'arrive sur marathon, tu sais que tu vas avoir des hauts et des bas et c'est ces bas qu'il faut réussir à gérer et ne pas paniquer, c'est la première des choses à faire, de se relâcher et surtout de se concentrer sur autre chose et c'est là où l'aspect mental, motivation de l'esprit va prendre le pas sur les jambes, en gros.
Justement, est-ce qu'il y a des techniques pour le gérer? On demandera des conseils à Stéphanie, parce que Stéphanie, tu dois connaître sur chaque épreuve ce type de moment. Johan, toi, est-ce que tu as des conseils à donner comme ça pour gérer les moments difficiles?
T'en as plusieurs. C'est Paula, ici, qui expliquait qu'elle comptait dans sa tête.
Oui, jusqu'à 100, je crois.
Jusqu'à 100, voilà,
ouais,
c'est
quand
ça.
C'était dur. Alors, elle dodinait de la tête comme ça.
Ouais, et elle comptait jusqu'à 100 dans sa tête, ouais. dans les moments difficiles, parce que, en fait, elle pense à autre chose et ça l'enlève, ça l'aide à partir un petit peu de l'épreuve qu'elle est en train de subir. Et du coup, elle attire son attention, elle se concentre sur autre chose. Et moi, j'ai le souvenir, quand j'ai fait 2h09 au marathon de Paris, quand je sors des quais de Seine, là, on est au 25e, tu vois, on n'est pas encore au 30, et du 25 au 30, j'avais la Tour Eiffel à gauche, et je regardais la Tour Eiffel, et je pensais à la Tour Eiffel, à la construction, machin, je te jure que je me suis perdu un peu dans mes pensées pour tenir, parce que je sentais que c'était un moment un peu clé, tu vois, un peu charnière.
Ouais.
Et mon esprit est parti ailleurs, j'ai visualisé autre chose. Et du coup, ça m'a permis de tenir. Et après, du coup, ça m'a relancé quelques kills plus loin. C'est revenu et j'ai pu me relancer. Après, il y a la visualisation. Tu vois, la visualisation positive. Penser à la ligne d'arrivée. Penser à tout ce qu'on a fait pour en arriver là pendant la course. Ça peut être aussi voir quelqu'un sur le parcours. Tu vois, tout à l'heure, Stéphanie a dit qu'elle avait vu sa nièce.
Elle lui a parlé au téléphone, ouais. Enfin, précisément, ouais.
Voilà. Et ça, sur les distances longues, ou par exemple, sur un marathon, vous dites à votre coach, vous dites à votre famille de vous positionner au 32-34, il y a des chances que quelque part, ça soit un gain, un boost supplémentaire dans ces moments difficiles. Et après l'autre truc auquel on peut penser, t'as le discours interne hein, de toujours y arriver. Moi des fois j'essaye de me concentrer sur le short ou sur les chaussures du gars de devant et de rester focus là-dessus. Tu vois, pendant quelques kilomètres, t'es concentré sur le short. Et des fois ça passe. Mais après, comme a dit Eliud, et c'est un peu la devise de RMC Running, c'est sourire, ça aide à respirer, parce que le relâchement, quand on est cette crispation, quand on a ce moment difficile. Si vous mettez un peu de relâchement, vous mettez un peu de sourire, si vous récupérez un petit peu plus,
une façon de dédramatiser aussi.
Ouais, de dédramatiser. La perception de l'effort, elle sera moins dure, tu vois.
Ouais.
Au lieu de froncer les sourcils et d'être dans le dur, à crisper les tout serré, les poings serrés, à les épaules hautes, et tu cherches à te relâcher, à sourire et à souffler, bah effectivement, tu peux passer ces petits temps faibles pour après que ça revienne.
Est-ce que tu as des techniques que tu peux conseiller, toi, Stéphanie, pour gérer ces moments difficiles ?
Je suis assez d'accord sur l'impact du sourire. Effectivement, on voit souvent l'impact du corps sur l'esprit, dont on en parlait tout à l'heure. C'est vrai, comme la posture qui peut donner plus de confiance, c'est vrai aussi du sourire qui peut donner plus d'énergie durant une course. Ça fonctionne vraiment, ça c'est plutôt intéressant. Après, comme le disait Johan, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que j'essaye de découper vraiment la course pour ne jamais subir.
Tu divises. Donc tu divises comment, toi, en heures sur 24?
Une course de 24, alors soit je le divise en heures, après j'aime pas trop me dire qu'il reste 8 heures ou 10 heures ou 12 heures.
Tu divises en demi-journée?
C'est pas forcément évident.
Quand le soleil se couche.
Ouais, c'est ça.
Je sais le nombre de tours que j'ai à faire, je sais quels sont les ravitaillements que je vais trouver. Parfois, je me dis qu'au bout d'un temps de tour, j'aurai tel ravitaillement. Il faut savoir que c'est beaucoup plus simple sur un ultra-trail parce que dans un ultra-trail, on rejoint un lieu. Donc, on va rejoindre un point de ravitaillement.
Oui.
On va penser à ce que l'on doit mettre dans son sac pour y rester le moins longtemps possible. On va penser à son itinéraire. Les balises, parfois, elles ne sont pas faciles à trouver. Il faut savoir que quand on est en tête, on est seul. Hein, parfois, sur 100 miles, on court tout seul. Donc, il faut trouver les balises. Il faut connaître son itinéraire pour ne pas perdre encore plus de temps. Parce que si on fait un kilomètre de plus, c'est bien dommage. Donc, tout ça nous occupe bien l'esprit. Sur une course de 24, on n'a pas ce type d'éléments. Donc là, il faut vraiment diviser en fait le plus possible, essayer de se concentrer sur la stratégie de course, sur son alimentation, son hydratation, la concurrence, les personnes qui vous entourent et qui sont sur le bord du chemin, les raisons qui font que vous êtes là. Mais tout préparer en amont, c'est parce que c'est très très compliqué ensuite de le faire venir comme ça durant la course. Vaut mieux l'anticiper.
Faut l'avoir anticipé, ouais.
Stéphanie, je viens de le calculer pour toi. Si tu veux aller nous chercher un record du monde des 24 heures solo, faut que tu fasses 676 tours de piste.
Oui, je sais.
Tu sais, elle a déjà le chiffre en tête. Et oui, parce que...
Quand t'entends la cloche, là, t'es content.
675, il manquerait 360 mètres, mais avec 676, du coup, c'est bon. Voilà, c'est exactement le nombre de tours que tu dois parcourir en Arizona si tu veux aller chercher
Vous courez toujours couloir 1 ?
Alors on court sur on court sur le couloir 1. Après il est un peu plus élargi que le couloir 1 traditionnel. Après sur ce type de course sur piste, il y a quand même peu de coureurs. C'est pour ça que c'est sur liste de manière à ne pas se gêner. Après il faut savoir
que sinon, tu fais que doubler.
Au dernier championnat du monde on était 400 et la piste, le circuit faisait 1500 mètres. On double parfois et c'est vrai qu'on fait en général tout petit peu plus de kilomètres. Je pense que le chiffre qui est validé in fine.
J'aimerais qu'on profite tous les trois de cette fin de séance pour s'adresser à ceux qui auront la chance de participer à notre record du monde RMC Garmin. Cette tentative de 24 heures, mais nous serons 144. Vous en ferez partie d'ailleurs tous les deux dans cette tentative pour aller chercher ce record du monde, cette marque de 350 kilomètres. Stéphanie, quel conseil on peut donner notamment à ceux qui vont courir la nuit, parce que tu l'as dit, la nuit c'est forcément plus difficile que le jour, les bonnes pratiques à adopter, comment être dans les meilleures conditions même si on court à 2, 3, 4 ou 5 heures du matin, est-ce que tu as des conseils comme ça à donner, parce que pas mal de coureurs sont engagés sur ces créneaux-là?
Alors c'est pas évident parce que quand le taux de mélatonine commence à monter, effectivement on a envie de dormir. Ça je le connais en course, je le connais aussi sur des préparations parce que parfois je m'entraîne pour des ultra trails la nuit pour réapprendre à me familiariser avec la frontale, avec l'environnement de la nuit, avec les bruits, tout cet environnement qui est très particulier. Donc ça fait partie de l'entraînement. Ça paraît étonnant parce que en général l'athlète de haut niveau doit récupérer la nuit avec pas mal d'heures de sommeil. Mais notre pratique de l'ultra-trail fait que parfois on doit s'entraîner la nuit. Donc ça peut être un peu contradictoire, mais on doit quand même y aller, donc consacrer des moments pour cela. Je conseille le café, donc la caféine. Je conseille aussi de l'eau sur le visage pour bien se réveiller.
On sera là, nous, pour vous arroser.
J'imagine qu'il y aura pas mal de...
Moi, je vais acheter un fouet.
Non. Alors moi, j'ai prévu des grands seaux d'eau. Dès que vous passez la ligne 400, plaf
plaf plus vite.
Ouais, c'est ça.
Il faut savoir que sur les championnats, en général, les personnes qui font partie de l'équipe durant la nuit, à partir de 19h, puisque il m'arrive parfois de ne pas dormir la nuit précédente, donc je fais 48 heures de nuit blanche.
Et ça, c'est
donc,
un choix ou c'est parce
non,
que c'est le stress.
C'est pour des raisons très différentes. Okay. Je pense que c'est tout à fait possible de dormir la veille et c'est mon objectif avant la tentative de record du monde. Mais il s'est trouvé que sur certaines expériences, je n'ai pas pu dormir la veille pour des raisons à chaque fois très, très différentes.
Okay.
Donc à partir de 19h, quand je passe au stand, entre guillemets, hein, c'est un peu comme les 24 heures en voiture, quand je passe au stand, on m'arrose, on me met de l'eau sur la tête et voilà.
Voilà les conseils comme ça de rudimentaires, j'ai envie de dire.
On t'arrose du café.
De Stéphanie. Toi, Johan, est-ce que tu as des conseils à donner? Après, le temps de course est réduit. Hein, c'est en moyenne 10 minutes de temps de course par coureur. Après, on le sait qu'il y aura une difficulté supplémentaire. Il y aura une ambiance différente dans ce stade Charletti à ces heures-ci. Mais est-ce que tu as un conseil à donner pour ceux qui vont s'élancer la nuit?
Il faut surtout bien s'échauffer, hein, se mettre en action, se mettre en éveil. Ça va être la base avant de prendre son relais. Il ne faut surtout pas partir comme ça sans trottiner un peu, sans mettre des gammes, sans mettre un peu de rythme, sans mettre des lignes droites pour vraiment faire monter le cardio et éveiller le corps à l'effort. Parce que effectivement, si au bout de tu pars un peu vite, pas trop échauffé, pas bien éveillé, au bout de 400 mètres, t'as le couteau sous la gorge et là, c'est sauf qui peut après. Donc être actif, quoi.
On accentuera le côté échauffement parce que, je vous le rappelle, mais notre partenaire Garmin va nous fournir des home trainers qu'on mettra en bord de piste pour commencer l'éveil musculaire. Voilà,
il y aura un DJ, on va danser toute la nuit.
Alors, pas forcément la nuit, on va pas se mentir, mais on sera quand même nombreux comme ça au stade. Le stade reste ouvert la nuit, hein. C'est d'ailleurs pour les familles de ceux qui courent la nuit, pour les soutenir aussi. Nous, on sera là, toute l'équipe d'RMC et d'RMC Running. Mais voilà, du home trainer, de la gamme, monter en pression gentiment et puis être prêt comme ça au moment du départ de votre créneau horaire. Ça sera une magnifique expérience et on est ravis de te compter dans l'aventure d'ailleurs. J'en profite donc de ce podcast pour te le dire, Stéphanie, puisque toi, tu es directement concernée. Tu pourras donner plein de conseils à tous ceux qui vont participer.
Oui, tout à fait. Je suis vraiment ravie aussi de tenter ce record du monde avec vous et c'est vraiment... une opportunité avec ces 144 coureurs. On va en profiter aussi pour parler de mouvement, d'activité physique. Ce sont des sujets qui me tiennent tout particulièrement à cœur et je suis sûre que, en se mettant en mouvement tous ensemble, on va aller bien plus loin, on sera en meilleure santé avec beaucoup plus de performance et je pense que c'est l'occasion, le 8 et 9 juin prochain, de parler de tout ça aussi.
Et on parlait d'émotion, cette beauté aussi d'aller le chercher tous ensemble parce qu'on court tous vers un même but et on ira tous chercher ce record du monde tous ensemble.
Comme le disait tout à l'heure Johan, je suis d'accord avec l'émulation, avec le fait de faire les choses avec les autres, ça apporte énormément. Il y a beaucoup de projets dans lesquels je ne me serais jamais lancée si ils n'avaient pas intéressé d'autres personnes. Tout l'intérêt des projets que l'on mène, que ce soit dans le sport de haut niveau, le sport exploration ou autre, c'est de le faire avec les autres. Il y a une émulation positive aussi quand les autres vous amènent plus haut parce qu'ils sont inspirants, parce qu'ils réussissent, parce qu'ils atteignent des grandes performances. Et ça, je l'ai vécu à l'international, sur les championnats internationaux, mais aussi dans les équipes de France, c'est juste extraordinaire. En fait, ils vous apportent énormément les autres en vous amenant encore plus haut.
Et j'ai beaucoup aimé la citation que tu avais inscrite dans la tente quand tu as traversé l'Antarctique, citation de Paulo Coelho. La seule chose qui rend un défi impossible, c'est la peur de l'échec. Je trouve ça très, très bien dit déjà, et puis très révélateur de ce qu'on essaye d'accomplir. Nous, à notre petit niveau, mais toi, sur les défis de l'extrême que tu te lances, mais c'est vrai que tout est résumé en une seule phrase, quoi.
Ouais, je crois qu'on a peur de l'échec parce que en fait, l'échec est très intéressant, il nous apprend beaucoup. Comme le disait Johan tout à l'heure, on a fait une course, on note tout ce qui s'est mal passé, on refait différemment. J'adore ces moments, en fait. Je pense que je ne voudrais pas réussir du premier coup parce que j'ai besoin quand même de comprendre d'où ça vient et j'ai besoin de noter toutes les erreurs pour refaire différemment. Ça, j'adore ces moments-là. Par contre, on est conscient aussi qu'il faut beaucoup de temps pour atteindre une performance, pour atteindre un objectif. Et je crois que parfois, on a juste peur d'accumuler ces échecs et finalement de ne jamais avoir le temps d'atteindre l'objectif. Et, Et la vie, elle est courte, hein, donc la mort peut venir n'importe quand. Et quand on sait qu'on est dans le temps long pour atteindre des performances, bah, on espère un jour quand même pouvoir, pouvoir les atteindre. Je crois que c'est pour ça que l'échec parfois nous, nous fait peur.
Bon, tu nous en veux pas, nous on espère qu'on réussira dès la première tentative. Hein, sur record du monde collectif.
Rendez-vous on a pas peur de l'échec.
8-9 juin, Stéphanie Jiquel sera avec vous, à vos côtés, pour vous accompagner. Voilà, elle, elle fera partie des personnalités qui vont courir pour aller chercher ce magnifique record du monde certifié par le Guinness. Book des records. Merci Stéphanie en tout cas d'avoir été là.
Merci à vous.
La tradition des RMC Running, la musique que tu écoutes quand tu cours, tu as choisi Agnès Obel, Riverside. Sympa ça.
Ouais.
Là, là on est sur quoi? On est sur une séance d'entraînement classique, Stéphanie?
Non, en fait j'écoute peu de musique. J'écoute peu de musique quand je cours, hormis sur quelques courses de 24 heures où la musique m'a aidé, c'était un peu un joker. Ouais. C'est vrai que sur des courses de 100 km ou 100 miles, je n'écoute pas de musique. Mais là, en fait, j'ai choisi cette musique aujourd'hui parce que elle me rappelle l'univers des expéditions. C'est une musique que j'écoutais beaucoup quand je partais au Groenland ou en Antarctique. Et là, je me vois sous une tente par moins 30, par moins 50 degrés, avec mon réchaud dans le froid, à faire aussi des efforts très très longs. C'est un autre univers, c'est juste un univers majestueux aussi, que j'espère un jour pouvoir retrouver. Là, en ce moment, je suis plutôt sur le sport de haut niveau, mais je sais qu'un jour, ces régions m'attendent à nouveau et voilà, j'ai hâte aussi.
Magnifique, on vous emmène dans la tête de Stéphanie Jiquel grâce à cette musique. Merci Stéphanie d'avoir été avec nous. Rendez-vous le 8 juin au Stade Charletti, tu seras avec nous. Merci à toi aussi Maître Yudi, peaufine
merci
ta préparation, hein, c'est important. On va tous aller chercher ce record du monde RMC Garmin ensemble. Et toujours ce conseil, il est validé en plus par Stéphanie Jiquel. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.